Pour avoir le message de partager le cas du Seigneur. Vraiment, rester dans le recueillement.
Jusqu'à nous, on prenait la forme humaine, il a pris notre chair, notre humanité. Alors je me suis posé la question, si j'étais Dieu et que je décidais de venir au monde, comment j'allais venir? Peut-être dans une longue limousine, hein? Je ne sais pas vous, comment est-ce que vous allez faire pour venir. Si vous étiez Dieu, alors lui, il a décidé de prendre la chair humaine, voilà, de prendre notre humanité. Mais moi, si j'étais Dieu, comment j'allais faire? Dans une limousine. Enfin, que chacun réfléchisse à ce sujet. Alors, dimanche dernier, sur la base de plusieurs textes, sur la base de plusieurs passages tirés de l'évangile de Jean, j'ai essayé de montrer ou de démontrer comment Jésus a-t-il vécu ici-bas. Il n'a pas accompli de grandes choses pour Dieu. Au contraire, c'est Dieu le Père qui a accompli de grandes choses à travers le Fils. Jésus a déclaré lui-même qu'il n'était pas la source, qu'il n'était pas l'origine des paroles qu'il prononçait et même des œuvres qu'il accomplissait. C'est le Père qui faisait tout par l'intermédiaire du Fils, bien entendu. Jésus ne faisait rien pour Dieu. Il reconnaissait plutôt qu'il était totalement uni au Père et que c'est Dieu le Père qui faisait tout, tout lui-même à travers le Fils Jésus. De sorte que, je disais, le Fils vivait à travers la vie d'un autre. Vivre à travers la vie d'un autre. Jésus a utilisé la métaphore du cèpe et de ses sarments. Jean chapitre 15, on avait parlé du verset 4 et 5, pour illustrer justement la façon dont les chrétiens doivent dorénavant à leur tour vivre, en demeurant attachés au cèpe. Et il termine ainsi le verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le cèpe, les sarments ne peuvent rien. D'où, l'essence de la vie chrétienne n'est pas d'accomplir des œuvres pour Christ, mais d'être en Christ. Et vu sous cet aspect, la vie chrétienne, frères et sœurs, n'est ni plus ni moins que l'expression de la vie de Dieu à travers les hommes mortels que nous sommes. Ainsi, la caractéristique fondamentale de la vie chrétienne est que Jésus nous a donné sa vie. Jésus nous a donné sa vie et qu'il désire lui-même la manifester à travers nous à chaque instant. Alors ce matin, je voudrais revenir justement sur un passage exploité dimanche dernier, notamment sur l'entretien entre Philippe et Jésus dans Jean chapitre 14. Les versets 8 à 10. Jean 14, versets 8 à 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, situé dans son contexte, en tout cas ce passage, hein, nous sommes à la veille de la crucifixion de Jésus. Il se met à entretenir ses disciples au sujet des événements qui vont bientôt s'accomplir, qui vont bientôt se produire, notamment son arrestation, sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Dans ce chapitre 14, au verset 4, il leur dit, vous savez, puisqu'il leur a déjà dit que je m'en vais, et il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas, n'étant pas du même avis que Jésus, lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? En réponse, Jésus lui adresse des paroles très puissantes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ensuite, Jésus a poursuivi en affirmant que s'il l'avait vraiment connu avant les disciples, ils auraient aussi connu le Père, parce qu'en le voyant, ils voyaient le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, dit-il, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors c'est à partir de là que Philippe va prendre la parole pour demander à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cela nous suffit. Alors, c'est cette requête en quelque sorte de Philippe que nous allons essayer d'examiner de plus près ce matin. D'abord, au regard de sa déclaration, de la déclaration de Philippe, nous pouvons conclure que Jésus ne lui suffisait pas totalement. Que Jésus ne lui suffisait pas pleinement. Pourtant, Philippe avait vu Jésus accomplir des miracles, même des miracles inédits. Il avait entendu parler comme, il avait entendu Jésus justement parler comme personne n'avait parlé auparavant. Mais il n'en était pas satisfait, Philippe. Avant d'être comblé, il attendait quelque chose de plus que Jésus. Il dit, montre-nous le Père. Alors, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors, d'après le dictionnaire, le mot suffit, qui vient du mot satisfaire. Le mot satisfaire signifie être à la hauteur des attentes, des besoins ou des désirs de quelqu'un. Combler un désir ou un besoin. Fournir à quelqu'un des renseignements adaptés ou une preuve de telle sorte qu'il soit convaincu d'une chose. Convaincu d'une chose. Donc, en rapport avec ces définitions, si l'on réfléchit un peu, on peut constater que Philippe estimait que Jésus n'avait pas répondu à toutes ses attentes, que Jésus n'avait pas répondu à tous ses désirs. L'impression que Philippe manifeste, c'est qu'il n'avait pas reçu assez de preuves pour en arriver à conclure justement que Jésus était Dieu. Donc, ils ont demandé encore d'autres, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe voulait quelque chose de plus que Jésus. C'est tout à fait étonnant, parce que si Jésus, frères et sœurs, ne vous suffit pas, qui ou qu'est-ce qui peut vous suffire? Est-ce que Jésus, justement, nous suffit-il? Avons-nous des attentes? Avons-nous des besoins ou des désirs au-delà de ce que Jésus nous a apporté, évidemment, nous célébrons la naissance? Avons-nous besoin de plus d'informations ou de plus de preuves que celles que Jésus nous a données? Pourquoi Jésus ne suffisait-il pas à Philippe? Pourquoi Jésus ne suffisait-il pas à Philippe? Justement parce que Jésus n'est pas venu dans une limousine. C'est parce que Jésus est venu avec un corps semblable à celui de Philippe. Pourquoi Jésus ne suffisait-il pas à Philippe? Mais c'était parce que Philippe ne connaissait Jésus que selon la chair. Après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Et si nous avons connu Christ selon la chair, dit l'apôtre Paul, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire que Philippe ne connaissait pas le véritable Jésus. Il ne reconnaissait pas pleinement qui était Jésus parce qu'il se limitait au corps physique de Jésus. L'humanité, en quelque sorte, de Jésus cachait à Philippe la divinité de Jésus. En effet, Jésus était Dieu, Dieu manifesté en chair. Hein, nous dit 1 Timothée chapitre 3, verset 16, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, c'est lui qui a été élevé dans la gloire. Dès sa naissance, l'évangile de Luc nous dit qu'il était le Seigneur Tout-Puissant, Luc chapitre 2, verset 11. Mais la gloire du Seigneur était en quelque sorte cachée, enveloppée dans la chair physique d'un tout petit bébé. Si sa chair était sans péché, mais elle était toujours la chair, de la chair. Ésaïe 53, on l'a entendu, verset 2, nous dit justement qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Sa chair était semblable à celle de tout être humain, de tout homme ordinaire, puisqu'il dit de lui, enfin, il est dit de lui dans Luc chapitre 2, verset 52, qu'il grandissait, qu'il croissait en sagesse, en stature et même en grâce. Grandissait. La véritable personne de Jésus était comme voilée par sa chair. La chair voilait sa divinité. C'est difficile pour un homme de réaliser que Dieu, à travers Jésus, ait pris la forme humaine. Donc c'est la raison pour laquelle Philippe, mais pas que lui seul, même les autres disciples ne l'ont pas pleinement reconnu. Ils avaient donc un inconvénient majeur, celui de voir le corps physique de Jésus. Nous pouvons penser, frères et sœurs, que ça aurait été mieux, par exemple, pour nous, justement, d'être parmi les 12 apôtres de Jésus ou d'avoir vécu à son époque et dans sa société afin de le voir dans la chair. Mais je pense, en tout cas pour ma part, que cela aurait aussi rendu difficile le fait de saisir qui il était véritablement. Les disciples voyaient Jésus dans toute son humanité. Il a pu être fatigué, Jésus, devant les disciples. Il a eu faim, hein, il a eu des pieds remplis de poussière, puisqu'il marchait beaucoup. Il a dû manger, il a dû dormir et faire aussi tout ce qu'il nous faut faire. Il aurait été difficile de voir l'humanité de Jésus et dire, il est Dieu. Vraiment Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui. Waouh! Celui qui a fondé l'univers par ses mains, d'après Ésaïe 48, 13, c'est lui. Et pourtant, il était tout comme vous et moi. Nous, bien entendu, nous avons l'avantage. Je dis bien, nous avons l'avantage de voir Jésus dans les Écritures par les yeux de la foi. Nous avons cet avantage. En plus de cela, nous avons le témoignage de l'Esprit Saint en nous. Les 12 disciples de Jésus, eux, ont dû voir au-delà de l'humanité de leur maître au quotidien. Mais ce n'est pas justement le cas pour nous. Ils ne connaissaient Jésus que selon la chair. Nous, nous pouvons voir Jésus avec les yeux de notre cœur par la révélation que Dieu nous a donnée dans les Écritures. Eux n'avaient pas accès à cela. Dans la suite, Jésus pose une question à Philippe au verset 9. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, pardon. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus est en train de dire à Philippe, est en train de dire que si Philippe l'avait connu vraiment, il aurait aussi connu le Père. S'il avait vu qui était Jésus dans son être intérieur, il aurait également vu le Père. Donc, Jésus en disant, celui qui m'a vu a vu le Père, ne faisait évidemment pas référence à son corps physique. Il expliquait à Philippe et à d'autres disciples aussi que s'ils avaient vu son cœur, ils auraient vu aussi le cœur de Dieu. Le Fils et le Père ne font qu'un, d'après Hébreux chapitre 1, verset 3, qui dit que Jésus est la représentation parfaite du Père, son empreinte, l'empreinte de sa personne. C'est précisément ce à quoi Paul faisait référence, j'ai dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, où il est dit, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Lorsque Paul dit qu'il a connu Jésus selon la chair, d'après la Bible, en tout cas, il rappelle qu'il étudiait auprès de Gamaliel et vivait à Jérusalem, selon Actes chapitre 22, verset 3. Il est donc certain que Paul avait vu Jésus à plusieurs fois à Jérusalem. Il aurait pu lui aussi le reconnaître et décrire ses caractéristiques physiques, Paul. Mais Paul était visiblement aussi passé à côté de la véritable nature de Jésus jusqu'à sa rencontre sur le chemin de Damas, acte 9, lors de sa conversion. Ensuite, Paul, à partir de là, a connu Jésus, mais d'une façon qui a dépassé largement le domaine physique. Paul a vu Jésus dans sa divinité sur le chemin de Damas. Ce n'est que par l'Esprit, justement, que nous pouvons véritablement savoir qui est Jésus. D'après 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Bien-aimés, à 8 reprises, à 8 occasions, la Bible rapporte que Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection. Pratiquement, à chaque occurrence, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à le reconnaître. En Marc 16, verset 9, c'est d'abord Marie-Madeleine qui pensait que Jésus était le jardinier, jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse à la manière dont Jésus l'a appelé par son nom. Sur le chemin d'Emmaüs, nous connaissons ce récit, les deux disciples ont passé presque plus d'une heure à parler avec Jésus, et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu par la vue. Ce n'est que lorsque Jésus a rompu le pain, a béni le pain, comme il l'a fait lors de la Sainte-Cène, que leurs yeux spirituels se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Luc chapitre 24, verset 13 à 31. Un peu plus tard, ce même jour de la résurrection, Jésus a dû montrer les cicatrices dans ses mains pour prouver à ses disciples que c'était vraiment lui, Luc 24, quand Jésus mangeait avec certains des 12 au bord du lac de Galilée. Là, nous sommes dans Jean, chapitre 20, verset 12. Il est écrit, « Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Mais pourquoi donc vouloir lui demander « Qui il était ?» s'il l'avait vraiment connu, ça aurait dû être évident. Et pourtant, ils ont pensé à lui poser cette question. Qui es-tu? Mais parce qu'ils ne le reconnaissaient pas visuellement. L'exemple d'ailleurs le plus clair qui illustre leur inaptitude à reconnaître Jésus est rapporté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 et 17, où il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Il s'agit des 12 disciples qui venaient de passer 3 ans et demi avec Jésus, jour et nuit. Ils le voyaient face à face et pourtant, certains parmi eux doutaient qu'il s'agissait bien de Jésus. Alors, que se passait-il? Pourquoi ceux qui connaissaient Jésus intimement avaient-ils du mal à le reconnaître? Pourquoi? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ce verset dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, mais parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc, Jésus, une fois ressuscité, avait un corps, pardon, glorifié qui n'était plus simplement physique. Alors, il avait certes un aspect physique. Jésus lui-même a dit qu'il avait de la chair encore et des os. Luc 24, verset 39. Mais le corps ressuscité de Jésus n'était plus seulement naturel. Par exemple, il pouvait passer au travers des portes verrouillées. Il pouvait apparaître soudainement et disparaître. Il fallait maintenant le discerner spirituellement. Mais les disciples n'étaient pas spirituels. Ils n'avaient connu Jésus qu'au travers de leurs cinq sens, mais pas au travers de leur esprit. Maintenant que Jésus-Christ était dans son corps glorifié, ils ne le reconnaissaient pas parce qu'il devait être discerné spirituellement. Le récit rapporté dans Luc 24 concernant les deux disciples d'Emmaüs, justement qui ont marché avec Jésus pendant plus d'une heure et qui ne l'ont pas reconnu, a été résumé en un verset dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 12, où il est dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Marc 16, verset 12. Alors, l'expression l'autre forme dont il est question dans ce verset ne signifie pas qu'il n'avait plus l'air humain ou qu'il ressemblait à un autre. Il s'agit toujours de Jésus dans son corps glorifié. Il portait encore non seulement l'empreinte des clous, justement, dans ses mains et dans ses pieds, d'après Luc 24, verset 39, mais aussi les cicatrices, rappelez-vous, laissées par la lance qui avait percé son côté, selon Jean chapitre 20, verset 20. Il est même possible que son visage ait eu des cicatrices qui ont pu affecter son apparence, ce qui en soi, d'ailleurs, est étonnant, vraiment étonnant, dans la mesure où, en ce qui nous concerne, frères et sœurs, la Bible dit qu'à la résurrection, nos corps seront parfaitement restaurés sans défaut. On peut lire 1 Corinthiens 15, verset 49 et suivant. Parfaitement restaurés, en tout cas, sans défaut. Mais curieusement, le corps ressuscité de notre Seigneur continue de porter les marques de sa crucifixion. Ce qui fait qu'au ciel, le seul corps ressuscité qui conservera les marques de la vie sur cette terre sera justement celui de Jésus, pour signifier qu'il est le créateur de la vie sur cette terre. Il continuera de porter les marques de cette vie sur terre, lui seul, pas quelqu'un d'autre. En plus, il continuera de porter les marques de cette vie sur terre, mais pour rappeler à tout jamais le prix qu'il a payé à la croix pour notre amour, enfin par amour pour notre salut. Lui seul est le créateur de la vie sur terre et lui seul est le sauveur des hommes. Lui seul continuera à porter les marques de la vie sur cette terre, alors que nos corps seront transformés complètement. Jésus, frères et sœurs, était maintenant spirituel alors que ses disciples étaient charnels. C'est exactement ce qui les a empêchés de voir qui il était. Ils ont connu Jésus selon la chair pendant son ministère terrestre, mais après sa résurrection, il leur a fallu le connaître par l'esprit. Cependant, ils n'étaient pas encore nés de nouveau, les disciples, et ils n'avaient pas cette capacité. Ainsi, pour revenir à la déclaration de Philippe, qui signifie en substance qu'il ne serait pas satisfait jusqu'à ce qu'il voie le Père, en fait, le problème n'était pas que Jésus était incapable de le satisfaire. Voyez? Le problème, c'est que Philippe ne portait pas son regard au-delà de la chair pour voir qui était Jésus en esprit. La Bible nous dit, dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et Jésus était entièrement Dieu dans son esprit, bien qu'il ait revêtu, je disais, un corps physique sans péché. Philippe ne s'est servi que de ses cinq sens qui sont incapables d'apercevoir quoi que ce soit au-delà du domaine physique. Il est passé donc à côté, on va le dire ainsi, du vrai trésor qui était Jésus dans l'esprit, mais parce qu'il était dominé par ce qu'il voyait et ressentait. De ce fait, Philippe était aveuglé concernant qui était réellement Jésus. C'est ce qui nous arrive quand nous sommes aveuglés que parce que nous voyons et ressentons, nous passons à côté de ce qui est spirituel. Notre chair est, j'allais dire, comparable justement au véhicule. J'ai parlé de limousine, mais notre corps est comparable justement au véhicule que nous conduisons. Il nous permet de nous déplacer dans la ville, un véhicule. Bien des gens, par exemple, vont reconnaître Alain au véhicule qu'il conduit. Ils voient passer le véhicule et disent quoi, par exemple, ah, c'est Alain qui est passé. Mais en réalité, ce n'est pas Alain. S'il arrive chez moi, par exemple, ce serait bizarre que je sorte pour saluer sa voiture. Vous voyez ? Ou se mettre à parler à sa voiture. Ce n'est que la voiture qu'il utilise pour se déplacer. Donc, quand vous voyez passer, quand vous la voyez passer, cette voiture en tout cas, le vrai Alain se trouve où? À l'intérieur de la voiture. Le vrai Alain se trouve à l'intérieur. De même, le corps de Jésus, je disais tout à l'heure, n'était qu'un véhicule qui lui permettait de se déplacer lorsqu'il était dans ce monde. Mais le vrai Jésus, quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », c'est de l'intérieur, était à l'intérieur. Le corps de Jésus était sans péché, bien entendu, mais il était tout à fait ordinaire comme le nôtre. Il était comme un voile qui empêchait les gens de voir le vrai Jésus qui se trouvait à l'intérieur. Lorsque nous comprenons cela, bien-aimés, nous accédons à une nouvelle manière de comprendre notre relation à nous avec le Seigneur. Le vrai Yvan, ce n'est pas celui que vous voyez. Ça peut troubler, mais c'est celui qui est à l'intérieur. Et cela change tout, justement, dans notre comportement, dans notre compréhension de notre relation avec le Seigneur. Par les Écritures, frères et sœurs, nous pouvons connaître Jésus d'une manière nouvelle. En effet, l'Esprit Saint nous révèle Jésus dans toute sa gloire au travers de la Bible. La parole de Dieu est vivante et efficace, c'est-à-dire puissante, d'après Hébreux chapitre 4, verset 12. Mais parce qu'elle est Jésus. Si elle est puissante, c'est parce qu'elle est Jésus, la parole. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc quand Jésus est venu sur terre, la parole est devenue chair. Et Jean dit, habiter au milieu de nous, Jean chapitre 3, verset 14. Jésus et la parole ne font qu'un. De même, de la même façon aussi que Jésus et son Père ne font qu'un. Connaître Jésus au travers de la parole revient à connaître le Père à travers Jésus. Ceux qui connaissent la véritable parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit connaissent véritable Jésus. Et cela, frères et sœurs, en tout cas, devrait nous suffire et nous satisfaire. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en Christ. » Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, voilà, nous avons entendu ta parole et cela nous interpelle justement quant à notre manière de vivre par la foi. Souvent nous avons besoin de voir, nous avons besoin de ressentir, de toucher et cela nous rassure, mais en réalité, nos cinq sens ne sont pas au même diapason que l'esprit. Parce que la chair, justement, nous joue des tours, mais tu a fait de nous des êtres spirituels. Tu as fait habiter ton esprit en nous. Tu as fait de nous des hommes nouveaux, des nouvelles créatures, à partir de ton esprit qui habite en nous. Seigneur, merci pour la vie divine que tu nous as donnée. Cette vie qui vient de toi, cette vie qui te permet justement d'habiter en nous, cette vie qui nous rappelle qu'en réalité, notre corps n'est qu'un véhicule qui nous permet de nous déplacer. Mais le vrai moi, le vrai nous, c'est l'intérieur. De la même manière que Jésus pouvait dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il faisait allusion à son être intérieur. Seigneur, merci pour